Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec une équipe réduite, mais un trio de choc. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir, bonsoir Babette. Choc.
Quoi ?
Bonsoir, oui. Patrick.
Bonsoir, Anne-Elisabeth.
Émilie, votre choix d'actu ce soir.
Dimanche, ça fera 5 ans que Johnny Hallyday nous a quittés. Il avait 74 ans, c'était le 5 décembre 2017, jour où il est entré dans la légende.
Légende, c'est ce formidable trimestriel cofondé par Eric Fotorino. Johnny Hallyday en fait la une pour ce 10e numéro. Eric Fotorino sera dans un instant sur notre plateau, accompagné de Patrice Lecomte. C'est l'une des plumes qui écrit pour ce numéro spécial. Parmi ces plumes, Nathalie Baye, Bertrand Dical, Patrice Lecomte, Daniel Rondeau ou encore Yarol Poupeau. Une mine, ce légende.
Ouais,
on vous en parle longuement. Patrick, votre édito ce soir.
Vous savez que la peur fait vendre. Eh bien, on a beaucoup vendu de panique énergétique ces dernières heures. C'est une valeur en hausse.
Faut-il avoir peur des fameuses coupures d'électricité ? C'est la grande peur de janvier. Et c'est celle qu'agite notamment le Figaro ce matin à la une. On en parle avec Emmanuel Wargon, président de la Commission de régulation de l'énergie. Vous nous direz si on a raison de se faire peur ou pas. Merci de votre présence ce soir. Pierre, votre œil.
Back in America, c'est un formidable travail de mise en couleur par un Français de tout un tas de photos qui ont été shootées par les plus grands photographes de l'époque au moment où Franklin Roosevelt souhaitait que l'Amérique de l'immédiate avant-guerre sorte de la dépression. C'est un bouquin magnifique, je vous le présente tout à l'heure.
On le présentera également à Gims, qui est notre invité ce soir. Il sort un nouvel album, il a toujours cette voix incroyable qui va tonner sur la scène de C'est à vous. Et puis on accueille un magicien extraordinaire qui a pour parents Charlotte Rampling et Jean-Michel Jarre, mais il a surtout un talent. Il m'a subjugué lorsque je l'ai rencontré la première fois. Il vous subjuguera, c'est sûr. Tout à l'heure, il dîne avec nous autour d'un dîner préparé, comme tous les soirs cette semaine, par Christophe Maury, qui n'est pas là en cuisine. Je ne serai pas piégée ce soir, mais qui sera bien là pour notre dîner tout à l'heure. On commence donc tout de suite, sans transition, par l'édito de Patrick Cohen. La France est en état de panique énergétique.
Panique organisée, comme le chantait Louis Chédid dans le Chacha de l'insécurité. Les faits, face à un risque élevé de tension sur le réseau électrique en janvier à cause de la maintenance prolongée de réacteurs nucléaires, c'est-à-dire du risque que la demande de courant soit légèrement supérieure à l'offre, le gestionnaire du réseau RTE et le gouvernement ont élaboré des scénarios de coupures ciblées, localisées, temporaires et programmées. Pas plus de 2 heures, dans la matinée ou en début de soirée, pas plus de 4 millions d'habitants à la fois en divers points de l'Hexagone et a priori, pas d'effet de surprise puisque les personnes concernées seront alertées la veille aux environs de 17h. C'est un plan qui vise à éviter le blackout, la panne géante et imprévue qui désorganise le pays et met des vies en danger. C'est déjà arrivé. Bref, c'est un plan anti-catastrophe.
Et le résultat dans les médias ?
Ah ben, la catastrophe est déjà là. Le pays plongé dans le noir, les trains et métros arrêtés, le téléphone en dérangement, Internet en rade, les services de secours injoignables, des feux tricolores en berne, des digicodes verrouillés, des Français qui grelottent et s'éclairent à la bougie, un pays en mode Amish. Vous voyez quelques-uns des bandeaux. Tiens, la France des Amish, voilà. Je n'invente rien, donc j'ai regardé les chaînes info. La une du Figaro ce matin, la grande peur de janvier et celle de Var Matin et Nice Matin qu'on va voir préparer vos bougies. Le résultat de ce marketing de la peur se lit dans un sondage Odoxa pour le Figaro. 62% des Français sont convaincus qu'ils subiront eux-mêmes des coupures de courant cet hiver. Personnellement, je tire mon chapeau. 38% restés insensibles à ce matraquage. Je ne sais pas comment ils ont fait.
Le gouvernement n'a pas une part de responsabilité.
Si, bien sûr, en définissant dans les moindres détails les modalités de ces éventuels délestages et en rendant public la longue circulaire de mode d'emploi adressée aux préfets préfet hier, il a donné du crédit au scénario du pire, mais s'il ne l'avait pas fait, on lui aurait reproché de ne pas avoir anticipé. Et pire encore, si les coupures ont effectivement lieu en janvier. Communication donc forcément perdante, celui qui tente de prévenir la catastrophe en est par avance rendu responsable, même en expliquant qu'il s'agit d'un risque et pas d'une fatalité, ou en soulignant que la consommation d'électricité en France a baissé de près de 7% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes, ce qui nous donne des chances en plus de passer au travers, même si pour l'essentiel ce sont des baisses de l'énergie et pas des foyers citoyens consommateurs, mais ces arguments sont de peu de poids dans l'opinion.
Pourtant, selon vous, cette panique a du bon.
Alors disons qu'elle peut avoir quelques mérites, notamment de nous pousser à prendre de bonnes décisions. Pour les citoyens consommateurs d'énergie que nous sommes, faire preuve de sobriété et au-delà de l'hiver, on en a pour quelques décennies encore, et pour les dirigeants de ce pays, repenser notre offre énergétique. Les éventuelles pénuries de cet hiver ne doivent pas grand-chose à la guerre en Ukraine, il faut le répéter, et beaucoup à l'impéritie des gouvernements de ces 10 dernières années, il serait invraisemblable et scandaleux de revivre un autre hiver 2023 avec des risques de pénurie de courant.
Le marketing de la peur, expression de Patrick que je reprends à mon compte. La France se joue un peu à se faire peur et est-ce vraiment de la faute du gouvernement ?
La France joue à se préparer en fait. Et c'est vrai que dès qu'on parle de se préparer, qu'on commence à mettre sur la table différents scénarios, forcément ça peut mener à « on se fait peur ». Aujourd'hui, on ne sait pas dire si on aura ces coupures ciblées ou pas. Ce qu'on sait dire, c'est qu'on n'aura pas de blackout généralisé. Ça, c'est déjà une chose qu'on peut dire clairement.
C'est une certitude absolue.
Oui.
Il n'y aura pas de panne géante. Enfin, ce qui est déjà arrivé, on va y revenir dans quelques instants.
Ça peut arriver si on a un aléa autre, c'est-à-dire s'il se passe quelque chose que personne n'a prévu. Mais en tout cas, dans les scénarios d'approvisionnement en gaz et en électricité, on n'a pas de risque d'un système qui disjoncte complètement. On a une vigilance et donc une préparation sur des moments où peut-être que s'il fait vraiment froid et si les réacteurs EDF n'arrivent pas à la bonne vitesse et si le reste de l'Europe n'arrive pas à nous vendre suffisamment d'électricité, ça fait beaucoup de si.
Ben c'est ça qui
donc
fait peur,
donc avec ces beaucoup de si, il n'est pas impossible qu'il y ait des coupures. Alors comment on fait pour être préparé sans avoir peur ? Parce qu'en fait, ça ne sert à rien de surfer sur la peur, ça ne sert à rien d'en faire des tonnes non plus. L'idée, c'est vraiment d'être préparé, de savoir ce qui va se passer si ça doit arriver. Et puis, il y a un message qui s'est peut-être un peu perdu dans la dernière communication. C'est le fait qu'on n'est pas obligé de subir. En fait, RTE, donc le gestionnaire de réseau, va nous sortir un signal qui s'appelle EcoWatt 3 jours avant. Il va nous dire, attention,
télécharger l'application. Hein.
Je pense que tous les médias de France et de Navarre, écrits et audiovisuels, nous diront, on est en EcoWatt rouge à ce moment-là, c'est dans l'application. Mais je pense que ce sera relayé quand on voit les titres de presse. Donc, on aura un EcoWatt rouge.
Nous, c'est bien.
Très confiance en vous. Très, très confiance en vous. Quand on aura EcoWatt rouge, on saura qu'il faut vraiment essayer de réduire sa consommation. Ou en tout cas la décaler entre les périodes de pointe. Je rappelle que c'est uniquement 8h du matin, 13h, et 18h, 20h.
Et c'est-à-dire c'est des gestes simples, pas de sèche-cheveux, etc.
C'est des gestes simples, pas d'appareil électrique dont on n'a pas vraiment besoin, décaler les machines, mettre le chauffage à 19, pas faire le gigot de 7h ce jour-là. Vous voyez, le four 7h, c'est peut-être pas indispensable. Et du coup, c'est aussi des choses très simples. Et donc, 3 jours avant, RTE nous dira qu'il y a un risque. C'est évidemment des gestes de la consommation de vous et moi, tout le monde. C'est aussi des ajustements des industriels. Il y a un certain nombre d'industriels qui sont inscrits dans des mécanismes dans lesquels, si on donne une alerte, ils baissent leur consommation. La veille, RTE redira « le risque est toujours là » ou « le risque n'est plus là ». S'il le redit « le risque est toujours là », le risque de coupure arrive potentiellement. Et là encore,
il est
on peut continuer
la tendance
à changer nos comportements. Il est possible d'inverser la tendance. Donc je pense que ce qui serait dommage dans cette communication, c'est que quand le premier signal arrive, tout le monde se dit « ça y est, ça va être la coupure » et tout le monde ne parle que de ça. Alors qu'en fait, le premier signal, il sert juste à nous faire changer nos comportements et tous lever le pied sur la consommation d'électricité.
Et jusqu'à la dernière minute, les coupures peuvent être levées.
Donc, moi, je suis assez convaincue qu'au premier EcoWatt rouge, tout le monde jouera le jeu et qu'en fait, on n'arrivera pas à la coupure. Après, c'est difficile de dire dans le temps, il faut passer janvier et février, et ça dépend quand même d'abord de la météo. Et puis sur la consommation, c'est un peu ce que disait Patrick Cohen dans son édito, ça nous pousse aussi à la sobriété en routine.
Est-ce qu'on revoit un peu notre consommation d'électricité et de gaz? Est-ce qu'on baisse un peu le chauffage? Est-ce qu'on est en capacité de le faire? C'est bon pour les problèmes d'approvisionnement, c'est bon pour la planète aussi, notamment sur le gaz, qui lui émet toujours des gaz à effet de serre. Donc au-delà de ça, si c'est un signal d'alerte pour changer un peu notre consommation, c'est utile.
Il y a une question d'égalité territoriale. Est-ce que vraiment tout le territoire sera concerné? Selon Le Monde, seulement 20% de la consommation d'électricité peut être coupée. La région parisienne abrite des centres de décision ou des sites d'énergéticiens nécessaires à la gestion de crise. On se dit, a priori, Paris-Île-de-France pourrait être épargné, ce qui pourrait paraître injuste au reste du pays. Est-ce que c'est réellement le cas?
Alors, il faut se mettre à la place des gestionnaires de réseaux d'électricité, le gestionnaire général du réseau haute tension, RTE, le gestionnaire de distribution, Enedis, et puis tous ceux qui gèrent les cellules de crise. Les contraintes sont très fortes, c'est-à-dire il faut pas d'hôpital, pas de clinique, pas de tout un tas de lieux qui produisent des choses d'importance vitale. Et donc quand vous faites cette carte-là, vous ne vous dites pas « je préfère Paris à la province », vous regardez où ils sont. Donc c'est vrai que Paris sera plus protégé que la petite couronne, la petite couronne un petit peu plus protégée que la grande couronne, mais il y aura des coupures potentielles aussi en petite couronne et en grande couronne, et après il y aura des coupures un peu partout en France. L'équité, c'est surtout que les coupures seront tournantes, donc si vraiment il devait y avoir des coupures, elles ne seront pas toujours au même endroit, ce ne sera pas toujours les mêmes personnes, et donc ce sera réparti. Mais après, il y a une partie d'aléas. Si vous habitez à côté d'un hôpital, et bien peut-être que vous avez le SAMU qui fait pimpon jusqu'à 2h du matin, et puis que par contre, le jour où il y a une coupure, et bien ce jour-là, vous n'avez pas de coupure.
Mais ça peut être très mal perçu. Ça va être à nouveau la France des territoires contre la capitale.
Je comprends que ça puisse être mal perçu, mais c'est une conséquence de critères qui sont des critères de bon sens sur le fonctionnement d'installations dont on a besoin. Ce n'est pas une cause. Le système n'est pas parti en se disant on va protéger Paris et pas la province. Bien sûr. Système est parti avec des critères et ça mène au fait qu'il y a un petit peu plus d'installations à protéger à Paris qu'en province.
Il y a moyen que les Parisiens soient impliqués par un mécanisme de volontariat pour sembler être solidaires avec le reste de la France. Je crois qu'Elisabeth Borne réfléchit à un mécanisme de ce type-là.
En tout cas, chacun doit vraiment se dire que c'est entre nos mains à chacun, avec des petits gestes. Chez soi, au bureau aussi d'ailleurs.
Oui, si Paris fait un gros effort,
si, les 2 millions de Parisiens font des gros efforts, et ben ça tirera moins sur le réseau. Si ça tire moins sur le réseau, ça permettra peut-être de ne pas avoir de coupure du tout.
Et pas de blackout du tout. Ce qui est arrivé, Patrick, en 19 décembre 78,
blackout d'une bonne partie du pays, sauf le réseau Nord-Est. C'est en fait un gros disjonctage qui a eu lieu et qui a contaminé l'ensemble du réseau. J'en ai gardé le souvenir, je suis assez vieux pour ça. Je me souviens, au lycée, c'était 8h27 du matin, il faisait très froid. J'étais en classe. Cours d'anglais, je me souviens que les lumières sont éteintes et que le cours a continué et qu'on a eu classe. Et c'est seulement d'ailleurs à la mi-journée que on a découvert que c'était pas seulement une coupure du lycée ou du quartier ou de la ville, mais de tout le pays, parce que la vie continue. Maintenant, on va voir l'archive de 78.
De vous en cours d'anglais ou...
Pardon.
De vous en cours d'anglais, l'archive.
Non, l'archive.
C'était filmé. Il avait une caméra qui l'a suivi depuis la naissance.
Pas du
Patrick.
Tout. Je m'en souviens de ça. 8h27.
On était déjà en tunnel. Personne bloqué. Bloqués dans les ascenseurs ou retenus tout bêtement chez eux car leurs portes d'immeubles sont électriques, Parisiens et provinciaux ont vécu ce matin quelques heures de folie.
C'est un aperçu du chaos qui peut exister dans les années à venir, d'ici 5 à 10 ans, c'est un avant-goût. Alors, il faut mettre l'accent maintenant sur les énergies solaires, les énergies nucléaires.
On aurait pu ne pas prêcher le tout électrique dans tous les immeubles. Le gaz, ça sert à quelque chose quand même.
On se rend compte que l'électricité, il faut savoir la consommer économiquement.
C'est intéressant ce que disent ces gens, parce que à ce moment-là, Fessenheim vient juste d'être mis en service. On n'est pas encore à plein, pas du tout, au niveau nucléaire. On n'a pas la capacité d'aujourd'hui, même diminuée avec les centrales en maintenance. Et donc, il y a un vrai problème d'approvisionnement électrique à ce moment-là.
Non, mais ce qui est aussi intéressant, c'est ce qui est dit sur le gaz. Parce que c'est à la fois vrai et à la fois ça interroge aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qui est vrai, c'est que quand on a un mix d'énergie diversifié, c'est mieux quand on a plusieurs sources d'énergie, quand on a plusieurs sources de production d'électricité, de l'électricité et du gaz. Ça permet d'utiliser l'un quand on a moins l'autre. Après, en 78, on se posait moins la question des émissions de gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. Donc, cette personne qui dit le gaz, ça sert à quelque chose, à la fois c'est vrai, et à la fois, il faut qu'on arrive progressivement à réduire ça au profit d'une électricité qu'on ne produit pas non plus avec du gaz ou du charbon, sinon on ne progresse pas.
Et une dame qui dit plus de solaire et plus de nucléaire.
Donc là, je pense qu'elle a bien résumé les choses.
Le gaz, c'est bon, on a le plein pour l'hiver. En revanche, le problème se posera pour l'hiver prochain. Et on espère que d'ici là, pour l'électricité, ce sera réglé.
Alors, le gaz, on aura effectivement une question encore très ouverte pour l'hiver prochain, puisqu'on a quand même du gaz russe dans nos stockages aujourd'hui. Donc, la fin totale du gaz russe fait qu'on aura plus de mal à réatteindre un bon niveau de stockage l'année prochaine. Et puis, il y a une guerre d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié. Actuellement, comme vous le savez, la Chine est quand même assez largement à l'arrêt avec sa politique de zéro Covid, dont on voit bien toutes les conséquences. Et donc, potentiellement, l'hiver prochain, on ne sait pas très bien, dans la concurrence internationale pour acheter du gaz, comment ça se passera et à quel prix. En électricité, on est historiquement bas en production nucléaire. En gros, on est 25% en dessous de la production classique. Elle s'exprime en terawatt-heure. EDF produisait 360 TWh il y a deux ans et sera à 275-280 cette année. EDF prévoit de remonter, donc plus EDF remonte et plus ce sera facile en électricité et plus on pourra retrouver notre statut normal d'exportateur d'électricité. Normalement, on exporte, en ce moment on importe, mais c'est plutôt atypique.
Certaines entreprises n'ont pas attendu les éventuelles coupures et prennent déjà des devants en modifiant leurs horaires et en travaillant la nuit. C'est le cas de ce fabricant de roues en acier.
En cas de rupture d'approvisionnement électrique soudain, on pourrait avoir les machines qui restent bloquées en bas, impossibilité de redémarrer avant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc on ne peut pas prendre ce risque.
C'est dans le cadre des calendriers, donc on doit venir de nuit, on vient de nuit, on doit venir l'après-midi, on va venir de l'après-midi. C'est tant que ça reste sur une courte période pour pouvoir continuer à travailler, moi personnellement je veux bien le faire.
Ah, c'est la nuit. C'est vrai que c'est, quand ça fait des années qu'on n'a pas fait de nuit, forcément c'est dur.
Quand on s'efface du réseau, on enlève la consommation de l'équivalent de 1000 foyers.
C'est une entreprise qui se veut flexible. Est-ce que c'est le conseil que vous donnez à toutes les autres ?
En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un bel effort que fait cette entreprise. C'est bien pour elle et c'est bien pour le réseau dans cette période de grande tension. C'est bien pour elle parce que les entreprises, l'électricité leur est facturée en fonction de la période de la journée. Donc, cette entreprise paiera moins cher son électricité parce qu'elle la consomme à un moment où elle est moins rare. Donc, ça va simplifier ses factures, enfin, baisser ses factures d'électricité. Et clairement, c'est bien pour le réseau dans une période de très grande tension.
Ça oblige quand même
les salariés à travailler la nuit. Après, c'est ce que j'allais dire. Le salarié l'a dit, c'est dur de travailler la nuit. Ça va si c'est pour quelques semaines. Et donc, on espère évidemment que notre système énergétique, il va pouvoir recommencer à tourner sans avoir besoin de faire ce type de contention. Mais en attendant, c'est un beau geste de solidarité.
On s'est renseigné parce que je me suis posé la question. Et quid ici à C'est à vous ? Bon, on a un groupe électrogène, renseignement pris. On peut tenir 24 heures. Donc, on pourra diffuser l'émission.
Sachant que les coupures peuvent avoir lieu entre 18 et 20 heures. C'est-à-dire
Nous, on pourra enregistrer l'émission. On pourra la diffuser. Encore faut-il que les Français puissent allumer leur télévision. Donc, ça se trouve, on fera une émission entre nous.
Après, c'est 4 millions maximum de personnes touchées par des coupures courantes.
Mais c'est énorme si on nous enlève.
C'est peut-être pas juste vos 4 millions.
Ah, oui. Est-ce que vous voulez bien sélectionner
Vous nous passerez la carte. On va rajouter ça, je pense, dans les critères.
On a une liste de noms à
vous. Oui, c'est ça.
Si vous voulez bien couper la concurrence, c'est pas couper, c'est à vous. Non, mais tant qu'à faire, si vous êtes la bonne personne, auquel s'adresser.
Sur un malentendu.
C'était une petite.
C'était ton édito.
C'est 10% des foyers.
Oui, mais enfin, quand même, c'est considérable. Voilà. Mais j'imagine que ça intéresse nos téléspectateurs.
Pour revenir à des choses plus vraies et sérieuses, en France, la plupart des foyers bénéficient du bouclier tarifaire et ça n'est pas le cas partout en Europe. Exemple, et le plus grave sans doute en Hongrie, où l'inflation atteint déjà 21,6%, les prix d'électricité flambent là-bas, avec des conséquences très concrètes pour la vie des habitants. Un reportage de France Info l'a montré de façon dramatiquement spectaculaire cette semaine.
Construit en 2018, il faisait la fierté de cette ville à 60 km de Budapest. Mais le club de foot de Székesfehérvár n'a plus accès à son stade.
Le théâtre et la piscine doivent fermer. Le fonctionnement des bibliothèques et des musées est très limité, tout comme les transports publics et l'éclairage public nocturne. Alors le sport doit aussi participer dans une certaine mesure.
Pendant l'hiver, le théâtre restera lui aussi porte close.
Pendant les 2 mois de fermeture, nous allons répéter les pièces qui seront jouées plus tard. Nous irons aussi jouer à la campagne.
Dans les écoles de Székesfehérvár, les tout-petits apprennent déjà à économiser l'éclairage, comme dans de nombreuses autres villes de province.
Et par exemple, en Hongrie, c'est une situation qui va durer de nombreuses années.
En tout cas, en France, on protège beaucoup plus qu'ailleurs, à la fois les particuliers, les ménages, vous et moi, et à la fois les entreprises et d'ailleurs les collectivités. Pour les ménages, la hausse est plafonnée à 15%, alors que la CRE, la commission que je dirige, fait des calculs. Et ces calculs disent que les prix augmentent, les prix réglementés avant plafond augmenteraient entre 120, 140, 160%, c'est l'ordre de grandeur. Et on protège en fait tous les contrats individuels et les copropriétés, les organismes HLM sont protégés, pas tout à fait de la même manière, mais avec aussi une compensation. On aide aussi les collectivités et les PME, ce qui permet justement d'aider les collectivités à payer les factures des stades, des piscines, etc. C'est un très gros investissement, puisque c'est de l'ordre, si je globalise toutes les aides, y compris les aides d'entreprise, presque 40 milliards d'euros au budget de l'État. Et c'est financé par la contribution de ceux qui produisent de l'énergie à coût fixe, donc à un coût qui n'a pas changé avec la crise, mais qui la vendent au prix du marché, donc qui la vendent très cher. Et ça fait aussi des recettes exceptionnelles pour le budget de l'État, pas tout à fait au même niveau, mais entre 30 et 35 milliards en gros. Donc c'est une redistribution massive, et ça a un impact important, puisque l'inflation en France est l'une des plus basses d'Europe, et du coup ça contribue quand même à contenir un peu les prix, même s'ils augmentent sur d'autres segments, bien sûr.
L'un des éléments du scénario catastrophe qui fait beaucoup parler depuis hier, ça concerne les écoles, puisque les écoles qui seraient concernées par les délestages seraient fermées, resteraient fermées toute la matinée et notamment la mi-journée avec la cantine, ce qui pour le coup désorganiserait considérablement le pays et le travail de, éventuellement de millions de foyers. On est obligé de fermer les écoles en cas de menace de coupure ?
Ce n'était pas le cas en 1978.
Non. Je pense qu'il y a une question de responsabilité dans l'accueil des élèves, puisque les procédures incendie ne peuvent pas fonctionner. Donc c'est difficile d'accueillir des jeunes enfants si on n'a pas toutes les procédures de sécurité. J'ai vu que dans la circulaire au préfet, il y avait quand même une demande de voir si pour la restauration, à midi, c'était possible de trouver des solutions. Et on sait, pour le coup, depuis la crise Covid, à quel point les cantines, ça joue un rôle extrêmement important. Après, je rappelle que si ça doit avoir lieu, ce sera ponctuel, c'est-à-dire sur une école donnée, ce sera une fois. De toute façon, les coupures seront tournantes, donc on ne va pas fermer durablement. Et du coup, je pense qu'il faut quand même qu'on fasse attention à accueillir les enfants dans de bonnes conditions.
Merci beaucoup, Emmanuel Bargon. Si vous voulez bien rester avec nous pour commenter le reste de l'actualité, et notamment ce dossier explosif. Repousser l'âge légal du départ à la retraite à 65 ans, c'était une promesse de la campagne d'Emmanuel Macron. Ça reste la volonté du gouvernement, confirmée hier par la Première ministre, qui a révélé dans la presse les premiers contours de la réforme, qui sera officiellement présentée le 15 décembre prochain aux partenaires sociaux. Un objectif assumé ce matin par les ministres d'Elisabeth Borne.
Ce sera 65 ans à un horizon qui n'est pas un horizon demain matin. Il faut le dire clairement aux Français qui nous écoutent. Travailler plus longtemps. Pourquoi ? Pour ne pas baisser les pensions de retraite. Au contraire, pour faire en sorte que ceux qui ont travaillé toute leur vie puissent avoir une pension minimum de 1200 euros et pour ne pas augmenter les cotisations, c'est-à-dire les impôts des Français.
Nous avons une feuille de route qui est celle posée par le président de la République pendant la campagne présidentielle, avec un horizon de relèvement de l'âge à 64 puis 65 ans de manière très progressive. Nous avons cette feuille de route, mais nous avons aussi dit que ça n'était pas un totem, que ce n'est pas un tabou, que nous sommes ouverts aux propositions.
Bonsoir Jean-Rémy Boudot.
Bonsoir à tous.
Journaliste politique de France Info, notamment dans le Brief politique, c'est tous les matins à 7h24. Il n'y a jamais de bon moment pour expliquer aux Français qu'ils vont devoir travailler plus longtemps, mais là, en pleine crise énergétique, crise du pouvoir d'achat, menace de coupure d'électricité, retour du Covid, est-ce qu'il y avait un pire moment pour amorcer cette réforme?
Je pense qu'effectivement, il n'y a jamais de bon moment, mais peut-être effectivement c'est le pire. En même temps, il faut regarder un petit peu le paysage politique et un peu la séquence. C'est-à-dire que si c'était plus tard, ce serait probablement trop tard. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'un quinquennat, il y a un moment où c'est plus difficile, surtout de réformer, surtout dans un deuxième quinquennat. Donc on peut partir du principe qu'Emmanuel Macron, au bout de la deuxième année et demie, ça va devenir vraiment compliqué. Donc il faut embrayer les réformes les plus difficiles au début. Par ailleurs, c'est une promesse de campagne. Donc en fait, d'une certaine manière, l'exécutif considère que ça a déjà été un petit peu mis dans l'atmosphère. Et c'est ce qui fait qu'ils disent que c'est le moment d'y aller.
Oui, il y a eu débat quand même sur le timing. Parce qu'il y a d'autres membres du gouvernement qui disent « Attention, l'humeur des Français est maussade. Et si jamais on retrouve le pays bloqué comme en 2019 avec la réforme d'Édouard Philippe. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ?
En fait, le gouvernement et globalement la majorité est un peu divisée en deux. Il y a ceux qui pensent qu'en fait ce débat a été purgé, notamment pendant la campagne, que tous les débats qu'il y a eu notamment ces derniers mois, finalement les Français ont compris qu'il allait falloir travailler plus longtemps. Et puis il y a ceux qui disent, attendez, là, c'est pas encore réellement dans l'atmosphère. Le mois de décembre, quand les annonces vont devenir très concrètes, que les gens vont se rendre compte qu'ils vont devoir travailler 3, 4, 5 ans de plus, peut-être 5 ans, je ne sais pas, mais en tout cas plusieurs années supplémentaires, eh bien, ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est difficile. Et donc, en gros, ceux qui ont le plus d'expérience, disons-le comme ça, les plus fins politiques, pensent que ça va être malgré tout difficile.
Mmh. Ils vont en parler au repas de Noël, hein, les Français. Je me souviens, pendant le Covid, il fallait parler absolument des gestes barrières entre la bûche et...
Alors ça, c'est effectivement une des questions. C'est, ah oui. C'est cette séquence-là de faire les bilans des concertations mi-décembre, présentation du texte en janvier, vote au Parlement au courant de l'hiver pour application à l'été. Ça, effectivement, c'est une question. Ils auraient peut-être pu le repousser en janvier, mais encore une fois, à partir du moment où le sujet est là, il est là, quoi.
Bon, l'idée, c'est de préparer quand même les esprits. On sait déjà que les premiers concernés par cette réforme, c'est la fameuse génération née au deuxième semestre 1961. Je ne sais pas pourquoi je vous regarde, Patrick. Il s'agit aussi de laisser entrevoir aux partenaires sociaux ce qui sera négociable. Mais est-ce qu'il y a vraiment une marge de manœuvre, notamment sur le report à 65 ans ?
En fait, c'est ça qui est intéressant sur ce qui s'est passé hier soir. C'est-à-dire qu'Elisabeth Borne, elle prend la parole pour... Pour tout vous dire, moi j'ouvre Le Parisien hier soir, en tout cas je regarde Le Parisien, je fais une première lecture assez rapide et je me dis, rien de nouveau. Et en fait, il y a des petites choses, uniquement des petites choses. Mais c'est ça aussi la communication politique, c'est qu'il y a un moment, en fait, avec cette interview hier soir dans Le Parisien aujourd'hui en France, elle remet le sujet dans l'atmosphère, elle permet aux uns et aux autres de se repositionner. Et donc là, ce qui est en train de se passer là depuis hier, dans les matinales, les différents syndicats, etc., tout le monde se repositionne par rapport à ça. Il faut quand même se rendre compte que, en fait, cette réforme, elle est en négociation depuis des semaines, un peu sous les radars, notamment avec Olivier Dussopt qui reçoit les partenaires sociaux. Et globalement, si on n'en a pas entendu tellement parler, c'est que ça se passait pas si mal. Sinon, vous auriez des syndicats qui auraient... Non, mais je ne dis pas que tout s'est très bien passé, Patrick, mais si les syndicats avaient voulu claquer la porte de manière bruyante, ils l'auraient déjà fait.
Non, mais je dis ça parce que je fais la moue, parce que j'ai dans l'oreille j'ai entendu ce matin le patron de la CFE-CGC, les cadres CGC qui étaient chez vous, Omril, François Omril, hein, c'est ça, qui était d'une violence, qui avait un discours extrêmement violent, extrêmement dur sur l'interview d'Elisabeth Borne et contre la réforme.
Tout le monde se positionne. Exactement ce qui va se passer. La CGT va se repositionner. Évidemment, la CGT est complètement contre. La CFDT se montre aussi très rude sur la CGT qu'on dit syndicat réformiste, CFDT, pardon, qu'on dit syndicat réformiste, se montre assez ferme, parce qu'aussi la base s'est montrée assez ferme sur ces questions-là. Et là, le principe du gouvernement, c'est d'essayer de séparer un peu tout le monde, que la CGT reste la plus radicale, que les autres peut-être puissent se désolidariser un petit peu pour essayer de négocier avec les uns et les autres.
Une réforme inutile qui va rajouter de la souffrance a immédiatement réagi la députée insoumise Mathilde Panot, qui promet de l'obstruction systématique à l'Assemblée nationale si c'est un projet de loi qui est présenté, tout comme le RN qui s'opposera à cette réforme.
S'il faut de l'obstruction, vous ferez de l'obstruction.
Oui.
Le corps lui-même explique que lorsque vous allongez l'âge de départ à la retraite, ça va vous coûter 5 milliards en termes de pension d'invalidité, en termes d'indemnité maladie, d'indemnité chômage. C'est ça le monde qu'on veut offrir aux gens, c'est-à-dire une réforme du siècle passé, comme entre 1945 et 1982.
C'est une folie que de faire cette réforme, alors même que de plus en plus de Français font des métiers difficiles. Une modification de départ de retraite de 62 à 65 ans va entraîner une augmentation des dépenses sociales qui n'est pas prise en compte dans l'équation de Mme Borne, pour une raison très simple, c'est que 40 à 50% des gens qui arrivent à la retraite aujourd'hui en France sont au chômage.
Deux questions. D'abord, sur le caractère utile de cette réforme. Elle est essentielle, martèle Elisabeth Borne, faute de mettre en péril le système de financement. Est-ce que c'est une réalité ?
On a vu tout à l'heure Olivier Dussopt qui a redit cet après-midi, en gros, le système est à l'équilibre pendant encore 2 ans et après, ça se dégrade. Après, en fait, chacun fait un peu sa lecture des chiffres. Je pense que Patrick a déjà fait plusieurs fois des chroniques pour expliquer, des éditos pour décortiquer le rapport du corps. Hein,
qui n'est pas toujours très clair. Hein.
Et donc, finalement, chacun a sa propre lecture. Je vais vous donner une petite info.
Le corps, c'est une assemblée. rassemblés d'experts, d'économistes, mais aussi de syndicalistes, etc., qui aboutissent à des compromis et donc qui ont une lecture absolument scientifique, précise, etc. Mais c'est aussi parfois dans un langage techno qui peut convenir à tout le monde. Et donc finalement...
Chacun y voit ce qu'il veut voir.
C'est à cause de ça qu'on a des différences d'interprétation et des rapports du corps.
Une petite info. François Bayrou, qui est donc commissaire au plan, qui lui veut cette réforme des retraites, et bien lui, ce qu'il voudrait là, je ne crois pas que ce soit encore sorti, mais en fait, il voudrait faire une note pour remettre les choses à plat, faire une espèce de surnote du corps pour redire, mais en fait, voilà le système, voilà la base de dialogue, voilà la base du débat.
De fait, sa note c'est-à-dire le système est en péril, c'est
voilà,
ça qu'il dira.
C'est ça qui en sortira.
Ça, c'est un changement de discours, parce que je me souviens, Bruno Le Maire disait, il faut travailler plus pour financer d'autres choses que la retraite.
Ça, c'est très
intéressant. Il nous le disait encore sur le plateau... Il y a peu de temps.
Et je pense que c'est une erreur majeure qui a été faite ces derniers mois, de laisser entendre que la réforme des retraites n'était pas faite que pour les retraites, mais pour financer d'autres choses. Je pense que dans l'imaginaire collectif, en tout cas dans le système français,
ça passe pas.
Les retraites, ça s'autofinance. Et ceux qui travaillent aujourd'hui payent la retraite de ceux qui sont aujourd'hui à la retraite. Et donc, de laisser entendre en fait, ce serait aussi pour finalement gagner un peu d'argent. Moi, j'en ai parlé à Bercy, à des ministres à Bercy qui me disent « Non, mais en fait, c'est parce que comme ça nous évitera de remettre de l'argent dans le système, cet argent, on pourra s'en servir pour d'autres choses. » Oui, mais politiquement, vendre l'idée que c'est une réforme des retraites qui va permettre de faire des hôpitaux ou des écoles, ce n'est pas du tout le même projet, ce n'est pas le projet des Français.
Et ça, cette erreur-là, elle a été corrigée.
Et alors, il y a eu des réunions, notamment à Matignon, pour dire à tout le monde, on arrête de dire ça. Ce n'est pas possible, il faut arrêter de dire ça, parce que c'est une bêtise.
Les économies, à l'échelle du quinquennat, sont très faibles, parce que, pour le quinquennat, la réforme ne rentrerait pas en vigueur à plein, hein, puisqu'elle serait progressive tout au long des générations. Et donc, à terme seulement, ce sont des chiffres qui sont de 10 ou 20 milliards d'économies, mais en tout cas, ça ne permettrait pas de financer quoi que ce soit dans l'immédiat, dans les années à venir.
En fait, il y a un côté de principe derrière une réforme des retraites, c'est effectivement... se projeter à 10, 20, 30, 40 ans sur une réforme des retraites, c'est une question de bonne gestion, de rigueur budgétaire, mais c'est vrai que c'est difficilement palpable. Quand vous pensez que, par exemple, sur les régimes spéciaux, il va y avoir ce qu'on appelle la clause du grand-père, qui font que qui sont aujourd'hui dans les métiers concernés, eh bien, eux, ça ne va pas changer pour eux. Et c'est seulement les nouveaux là, qui vont rentrer dans le système, qui signeront leur contrat en septembre peut-être, eh bien, qui, eux, seront sur le nouveau modèle. Ça veut dire que c'est dans 40 ans que vraiment ils seront eux-mêmes à la retraite. Donc voilà, il faut se projeter. La politique, c'est aussi prévoir. Mais c'est vrai que c'est aussi là où c'est difficile pour les Français, c'est pas très palpable. Et de se dire qu'en fait, c'est 65 ans à partir de 2031, ça paraît quand même déjà loin, même si c'est proche. Enfin voilà, c'est un sujet qui est vraiment difficile. Mmh.
49-3 ou pas ? Une majorité là-dessus sur ce...
49-3 probablement, en tout cas la plupart des gens au sein de l'exécutif sont prêts à le faire. La question qui se posera, c'est pas tant 49-3 que par quel véhicule législatif, pour expliquer les choses très, très, très facilement. Soit ça passe par un texte de loi normal, soit ça passe dans un rectificatif du budget de la sécurité sociale, auquel cas le gouvernement peut utiliser un 49-3 un peu gratuitement, entre guillemets. Ça veut dire qu'il n'utilise pas ça.
C'est joker.
C'est joker, voilà. Et ça veut dire le bon côté aussi du côté sécu, c'est que c'est un débat qui est court, qui est forcément de 50 jours maximum. Et donc, il y a plein de petites choses, un peu techniques, de techniques parlementaires qui poussent plutôt à utiliser ça. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que plus personne n'a l'idée de faire un petit amendement, passer un soir à minuit, l'air de rien, une nouvelle réforme, tac-tac, comme on a eu. C'était la crainte, quand même, en septembre-octobre, que ça puisse passer comme ça, enfin en octobre. Non, là, aujourd'hui, au sein de l'exécutif, on dit non, si on fait une réforme, ce sera, pourquoi pas, un rectificatif du budget de la sécurité sociale,
mais
ce sera pas caché. Ce sera le truc en entier, voté au Parlement ou pas grâce à des partenaires politiques, mais en tout cas, ce sera pas caché.
Merci Jérémy Baudot d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure des infos express d'Émilie. C'est une nouveauté du vendredi. Et je vais vous parler de la liberté d'expression sur Twitter, prônée par Elon Musk, qui a finalement des limites. Le compte de Kanye West a été de nouveau suspendu 2 semaines seulement après avoir été rétabli. Le rappeur, selon Elon Musk, lui-même est allé trop loin en publiant une croix gammée dans une croix de David. Le même jour, Kanye West déclarait son admiration à Hitler sur le plateau de l'émission complotiste InfoWars, présentée par la figure d'extrême droite, Alex Jones.
I see good things about Hitler also. This guy that invented highways, invented the very microphone that I use as a musician. You can't say out loud that this person ever did anything good, and I'm done with that. I'm done with the classifications. Every human being has something of value that they brought to the table, especially Hitler.
Pardon, j'aurais dû préciser que sous la cagoule, c'est effectivement...
Parce qu'il porte désormais des cagoules, mais enfin, ça pourrait être quelqu'un.
Kanye West, enfin...
Je vais avoir l'air complétiste, pardon.
Alors là, ce que dit Elon Musk, la exclume, il ne pouvait quand même pas ignorer que les propos racistes antisémites de Kanye West, ça devenait une coutume. C'est même pour cela, d'ailleurs, qu'il avait été suspendu une première fois en octobre. Ça, c'est une suspension temporaire, en revanche, qui a jeté un froid entre les deux hommes.
C'était extrêmement chaleureux hier à la Maison-Blanche entre Emmanuel Macron et Joe Biden.
Une sorte de happy end de cette visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Le dîner de gala hier soir face à 350 convives en smoking et robe longue. Entre les deux présidents, ça a été même une surenchère d'accolades et de mots doux à qui ferait le plus d'éloges à l'autre.
We can always count on one another as allies and friends. Vive la France and God bless America.
Dear Joe, my dear friend, I'm immensely grateful for the honor once again of this unique opportunity. Vive les États-Unis d'Amérique, vive la France et vive l'amitié entre nos deux pays. Cheers.
Ils ont quand même bu deux coupes chacun, du coup, pendant le discours. Donc ça, c'est pour les paroles, mais pour les actes, il faudra attendre dans le communiqué commun qu'il y a. Clos cette visite d'État, il est bien question d'une volonté commune de renforcer la sécurité, d'accroître la prospérité dans le monde entier, de lutter contre le changement climatique. En revanche, aucune mention de la politique ultra-protectionniste des États-Unis, aucun début d'engagement concret avec l'Europe, ceux qui étaient venus chercher Emmanuel Macron quand même aux États-Unis. Joe Biden a seulement promis qu'il réfléchirait à une solution pour ne pas exclure les alliés européens.
Pour la première fois depuis 36 ans, le Maroc se qualifie pour les huitièmes de finale d'une Coupe du Monde.
2-0 face à la Belgique. Hier soir, victoire qui les place premiers de leur groupe et les qualifie donc pour les huitièmes. Ce n'était pas arrivé depuis 1986, ce qui a rendu les Marocains très très heureux et ce qu'on pouvait difficilement ignorer. La présence de la communauté marocaine en France, un peu partout dans le pays. La photo devenue culte d'Emmanuel Macron en Russie, vous vous rappelez, qui exulte bras en l'air, franchement, elle a été remplacée par celle de Jamel Debbouze devant sa télé.
Ah oui, c'est la même pose.
Selon un sondage, les Marocains sont 20% à croire à la demi-finale et à peine moins à croire à la finale.
Alors bon.
Et nous, alors, on est combien à penser qu'on va aller en finale, la France?
Je ne sais pas.
Pas pour autant que ceux qui pensent qu'ils auront des coupures de courant.
voilà. Ouais. C'est combien? C'est-à-dire
62%.
62%.
On ne sera pas coupé le jour de la finale.
Ah oui, attention.
C'est un drame national.
Ah oui, là, c'est un drame national.
Ouais, 18 décembre.
Il n'en est pas question, Emmanuel.
Il n'en est pas question, c'est en janvier qu'on aura du mal.
Et ne coupez pas avant la VAR.
C'était il y a 5 ans, Émilie, la disparition d'une légende.
Après 57 ans de carrière, il a succombé à un cancer du poumon. Il avait 74 ans, c'était donc le 5 décembre 2017. Dans la nuit, Laetitia Hallyday transmet cette information à l'agence France Presse avec ces mots. « Johnny Hallyday est parti, j'écris ces mots sans y croire et pourtant c'est bien cela. Mon homme n'est plus. Séisme en France », annoncé dans tous les journaux télévisés.
Une légende s'est éteinte. Johnny Hallyday est décédé la nuit dernière à l'âge de 74 ans.
Comment l'oublier, lui qui fut la première et unique rockstar française?
Il avait dévoilé sa maladie au mois de mars. Le cancer était déjà très avancé, mais le chanteur était une telle force de la nature que ses proches voulaient croire qu'il remporterait ce nouveau combat.
Johnny Hallyday à la une de Légende, le trimestriel que vous avez cofondé, Eric Fotorino. Merci de votre présence aux côtés de Patrice Lecomte, qui est l'une des plumes de ce légende, aux côtés de Nathalie Baye, Daniel Rondeau ou encore Yarol Poupeau. Bonsoir à tous les deux. On se souvient évidemment, Patrice, de L'Homme du Train, film qui réunissait en 2002 devant votre caméra Jean Rochefort et Johnny Hallyday, qui vous avait dit un jour « J'aimerais être filmé par toi ». C'est donc le titre de ce texte. légende. Est-ce qu'il y a un mot qui colle mieux à Johnny Hallyday, qui était l'idole des jeunes au début de sa carrière?
Oui, on reste longtemps jeune avec Johnny, parce qu'il y a eu des jeunes pendant des générations. Donc, non, c'est la jeunesse. D'ailleurs, on l'a choisi, on l'a saisi dans sa jeunesse, parce que les teenagers, on appelait ça les teenagers, et ceux dont l'âge, c'est 13, 14, c'est, voilà, c'est entre 13 et 20, un teenager, 13 et 19 exactement.
Oui, oui, exactement, parce qu'à 20, ben, c'est 20.
Avec lui, on est des éternels teenagers.
C'est ce que vous écrivez dans votre éditorial. Hein. En un demi-siècle de carrière, Johnny a gagné ses galons d'immortalité.
Oui, mais oui, il est là, vous savez, ce qui est important, c'est de la vie d'un homme, en l'occurrence, mais c'est aussi sa mort. Et la mort de Johnny, qui a saisi le pays, c'est 800 000, entre 800 000 et 1 million de personnes. Il n'y avait jamais eu autant de monde à un enterrement depuis l'enterrement de Victor Hugo. Vous voyez, et donc, ça dit quelque chose. Je ne sais pas ce que ça dit exactement, mais ça dit que Johnny, il était à nous, il était à tout le monde. Et à un moment donné, on a voulu lui dire au revoir.
Ça veut dire que Johnny Hallyday, c'était la légende des siècles.
Ah oui, bah oui, réunir Victor Hugo et exactement, voilà. La légende du XXe siècle.
Un petit accès de culture.
Oh, allez-y, mollo, hein, faut qu'on vous suive, Patrice. Votre conclusion, Eric, c'est on a tous un peu, beaucoup de Johnny en nous. Qu'est-ce que vous avez de Johnny en vous, Patrice?
Moi, je ne suis pas très rock'n'roll. Il l'était pour moi. Ce que j'ai de Johnny, ce que j'ai observé chez lui, j'aimais énormément cet homme-là. J'ai adoré travailler avec lui, vraiment. C'était tout sauf la marionnette des guignols de l'info. C'était un type attentif, qui faisait attention aux autres. Mmh. Moi, j'adore les gens qui ne regardent pas que leur nombril, mais qui regardent les autres.
Mais vous racontez notamment ce qui s'est passé sur le tournage, une montre cassée.
Oui, sur le tournage, j'avais une montre de tournage, et puis j'ai vu lui faire un geste comme ça, et puis paf, j'ai pété ma montre. Il n'était pas dans la pièce quand ça m'est arrivé, mais ma montre était cassée. Et deux jours après, on était à Annonay pour tourner le film en province, et deux jours après, j'avais une boîte avec une montre que j'ai, que j'adore.
C'est celle-là.
Et il avait, et puis il y avait un petit mot en disant pour que tu continues à être toujours à l'heure sur le tournage. Et il avait compris, il avait repéré, alors que, enfin, c'est pas des yeux, c'est des lasers, il avait repéré que moi, j'aimais pas les montres de Top Gun et tout ça, les gros machins qui font les scolioses, mais que j'aimais les montres rondes avec des aiguilles et des chiffres. Eh ben, c'est ça.
Une extrême attention aux autres, alors que toute l'attention était tournée vers lui, évidemment. Et quand vous disiez qu'il était une légende toujours très vivante, c'est ce qu'on a pu constater cet après-midi sur l'esplanade à Paris qui porte son nom. Louis Amar et Antoine Miguet s'y sont rendus.
C'était une meilleure des chanteurs français.
C'est quelqu'un qui avait un grand charisme.
Je garde le souvenir surtout d'une voix et d'une incarnation.
Moi, je l'ai vu au Parc des Princes, au Stade de France, ou même à Bercy. Franchement, il donnait tout pour son spectacle.
Il n'y en a pas des centaines comme ça.
Voilà. Quel souvenir vous gardez de lui?
Comme si c'était quelqu'un de chez moi, pas de ma famille.
Je me souviens, je chantais les portes du pénitencier avec mon père. Donc, ça a marqué, quoi.
Que ce soit son mariage, ses divorces, ses problèmes avec ses enfants. Tout ce qu'il a vécu au point de vue ou familial ou star, on l'a vécu aussi parce qu'on s'est toujours intéressé à cette personne.
C'est une vie autant qu'une carrière que les Français ont suivie.
Ah oui. Oui, complètement, parce qu'ils se sont identifiés à lui. Parce qu'au début des années 60, on dit qu'il est américain. Il dit d'ailleurs qu'il est américain, ça ne va pas durer très longtemps. Mais en fait, il est très français. Il raconte la France, il raconte les Français, il raconte les jeunes au départ, mais il va raconter beaucoup l'amour. C'est quand même l'essentiel de son œuvre, je trouve. C'est vraiment, et qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'amour dans la vie d'un homme ou d'une femme? Donc, il nous a raconté nos vies, le cœur battant, quelquefois en haut, quelquefois en bas. Et il y a une très belle citation de Daniel Rondeau dans ce texte qui cite Salman Rushdie, qui dit « Nos idoles, on les aime toujours avec des flèches complètement cabossées, leur mariage raté, la drogue, etc. On les aime pas malgré ça, on les aime pour ça. parce qu'on leur pardonne, et en leur pardonnant, on se pardonne, nous aussi, quelque chose. Et ça, je trouve ça très beau.
Une vie que les Français connaissent, mais dont ils n'ont pas encore tout vu. Il reste encore de très nombreuses images inédites de Johnny Hallyday. Certaines d'entre elles seront dévoilées jeudi prochain sur M6, dans un documentaire que vous avez vu, je crois, Patrice.
Oui.
Johnny par Laetitia, 744 heures de morceaux de vie tournés pendant 20 ans au caméscope, au téléphone portable. L'épouse de Johnny Hallyday les a confiés au réalisateur William Carell, et on découvre des moments très intimes, notamment celui où Johnny et Laetitia se rendent au Vietnam dans un orphelinat pour y rencontrer pour la première fois Jade.
Quand on est arrivé au Vietnam, qu'on a été dans cet orphelinat, j'ai vu ce tout petit bout de chou qui était emmitouflé dans des espèces de pull-over.
Beautiful.
En tout cas,
grand garde. Hein.
Oui.
Après la naissance de quelques jours. Vous êtes content?
Ah oui, je suis ému. Et on me l'a mis dans les bras, et je l'ai regardée, et elle avait deux petits yeux noirs comme ça. Elle m'a fixé.
C'est l'une des images que vous avez retenues de ce documentaire, Patrick ?
Oui, entre autres, mais le documentaire, il est très très bien, parce qu'il est long. Donc vous dites 740 heures de rush, le film ne dure qu'une heure et demie.
Oui.
Et il y a beaucoup d'images intimes, d'images où on le voit tout seul avec ses enfants, avec Laetitia. Laetitia est très très partie prenante, elle parle beaucoup, elle parle très bien. Elle est très émouvante, surtout sur la fin du documentaire, quand elle raconte la fin de vie de Johnny. On se rend compte à quel point elle était attachée à cet homme-là, et elle en parle très bien, avec beaucoup de maturité, c'est grotesque de dire ça, mais enfin, avec la tête sur les épaules, et c'est ce qu'elle raconte, et c'est très émouvant. Je trouve ce film d'une heure et demie vraiment formidable. On voit plein de trucs, on voit aussi Johnny en concert,
on le voit aussi par exemple pendant des vacances à la montagne.
Oui.
Qui n'hésite pas à chanter. Enfin, ce moment-là.
Parce qu'il y a des petits gamins dont on ne sait pas d'où ils sortent, les enfants, on va le voir. Et qui lui disent chante,
allumez le feu.
Il dit oh non, je ne vais pas chanter, ça le gonfle un peu. Et en fin de compte, il
le fait.
Oui, et c'est parfait.
On regarde.
Tu peux chanter la chanson Allumez le feu?
Non, non, pas ce soir.
Si.
Ah, allumez. Ah, ben, vous chantez avec moi.
Bah, c'est ça.
Tu peux
chanter avec Johnny.
Allumez le feu.
Mais c'est marrant parce que ça me rappelle un souvenir. On était le film L'homme du train a été sélectionné en compétition à Venise. Bon, très chic, je me la pète un peu, deux secondes, après j'arrête. Et donc on était sur un bateau, un vaporetto, etc., pour aller à notre hôtel. Et on passe sous les ponts où ça résonne magnifiquement. Donc il y avait Jean Rochefort, Johnny, moi, nos femmes respectives et tout ça. Et sous le pont, il a attendu d'être sous le pont pour chanter, non pas Allumer le feu, mais il s'est mis à hurler « Optique 2000 !» Oui, et on était morts de rire.
Mais c'est génial.
Mais parce que on a une image de lui qui est fausse, juste, enfin qui est brouillée par des tas de médias et ça. Mais il était poilant, quoi. Enfin, il était rieur et il aimait bien faire rire.
Vous l'avez rencontré en 88 en marge d'une cérémonie des Césars. Il rendait hommage à Jean-Luc Godard. Vous étiez dans la salle. Et c'est lui qui vous fait part de son envie de faire un film avec vous.
Oui, l'envie d'avoir envie. Et c'est-à-dire que moi, je remettais un César à je ne sais plus qui. Enfin, bref. Et on s'est retrouvés tous les deux backstage, comme on dit en français. Et il est venu vers moi. J'avais jamais rencontré cet homme-là avec son espèce de démarche de cow-boy, de carcasse attachante. Et il est venu vers moi et sans blague, il m'a tendu la main, il s'est présenté, il a décliné son identité.
Ah oui.
Il m'a fait « Bonsoir, Johnny Hallyday ». Je m'en doutais un petit peu.
Oui, oui, j'avais deux, trois
Et puis il m'a parlé, parce qu'il était très cinéphile, il voyait trois films, il avait des insomnies de dingue, il avait une salle de projection, un home cinéma formidable. Il voyait trois films toutes les nuits, le cinéma américain, ouais. Cinéma français, tout le cinéma. Et il m'a parlé beaucoup de mes films qu'il avait manifestement vus. Et à la fin de cette conversation, qui m'enchantait, évidemment, il m'a mis la main sur l'épaule et il m'a dit simplement ça, avec sa voix que je ne peux pas imiter. Je ne suis pas Thierry Lugeron. Il m'a dit « Un jour, j'aimerais être filmé par toi ». Et c'était une très jolie formule, un peu féminine aussi, d'une certaine manière, sensible en tout cas, parce qu'il ne m'a pas dit « Tiens, il faudrait qu'on fasse du cinéma ». Non, il m'a dit « Un jour, j'aimerais te filmer ».
Ouais, c'est l'expression d'un désir.
Ouais.
Et 4 ans plus tard, donc, ce film sort, c'est L'Homme du train, où vous faites se rencontrer Johnny et Jean Rochefort. Johnny, lui, est Milan, cet homme mystérieux débarqué un jour en gare. Un extrait.
Ce que j'en pense, ça ne s'écrit pas.
C'est pas le bon extrait. Voilà, on va voir ça, c'est les Césars, on est passé sous César.
On nous entend ou pas?
On nous entend et on va regarder l'extrait de L'Homme du train de Patrice Lecomte.
Vous voulez toujours pas me dire pourquoi vous êtes venu? C'est pas utile. Parce que vous le savez. J'ai vu que vous aviez des armes. La banque? Vous inquiétez pas, si je suis poissé, je vous mouillerai pas. Non, ben, il ne manquerait plus que ça. J'aimerais bien vous aider. Oui, enfin bon, pardon. Tout doit être minuté au quart de seconde. Ça s'improvise pas. Vous faites des idées, c'est beaucoup plus simple que ça. On entre, on prend, et on sort. Oh. Il va s'en passer des choses samedi. Que dites-vous?
Qui était le plus intimidé des deux?
Non, ils étaient intimidés tous les deux.
Ah oui?
Vraiment. Comme on a tourné dans une petite ville et la maison de Jean Rochefort est une maison qu'on avait investie, donc on a pu, ce qui est très rare dans le cinéma, tourner grosso modo, mais dans l'ordre. Donc ils étaient tous les deux au début sur un cant à soi, du genre comment est-ce qu'on joue avec un rocker, et Johnny disait comment est-ce que je joue avec un acteur comme Jean Rochefort. Donc il y avait un petit round d'observation, mais qui correspondait très bien à la rencontre, qui est la rencontre de le personnage dans le film. Et puis petit à petit, ils se sont estimés énormément. Ils étaient ensemble, magnifiquement ensemble. Quoi. C'est qu'il n'y avait pas de lutte ni rien. Il y avait une espèce d'osmose inouïe.
Une dernière image.
Oui, une dernière image, c'est la maladie est là, le cancer du poumon, mais il veut continuer les tournées, notamment, évidemment, les Vieilles Canailles avec Mitchell et Dutronc. Et c'est presque un hôpital de jour qui est installé en coulisses.
Il faut organiser presque un hôpital derrière la scène, avec de l'oxygène, des médecins qui lui font des piqûres dans le ventre quand il fait une pause entre deux chansons. Pendant l'intermède au milieu du concert.
Il y a longtemps, sonnait guitare. Les mains noires lui donnaient le jour. Pour sentir les peines et les espoirs. Pour sentir Dieu et puis l'amour.
On a fait venir toute l'équipe, tout le staff technique, la maquilleuse, le coiffeur, l'habilleuse. On les a fait venir à l'hôpital et on a fait une loge à l'hôpital. Et il s'est habillé, coiffé et maquillé à l'hôpital.
Room service.
Room service.
Alors vous avez commandé... Donc nous avons un hamburger.
Les images.
Un combat jusqu'au bout et la volonté d'être sur scène. Ce numéro de légende est...
Formidable.
Formidable.
Vraiment.
J'ai 4 secondes pour vous remercier tous les 4. Merci.
Ça fait une seconde par personne.
Exactement, j'allais le dire. dans un instant, Gims est notre invité, mais également un magicien formidable qui s'appelle David Jarre. Merci, on vous attend. Merci à vous, cher invité.
Merci.
Légende, le numéro 10 en kiosque, Johnny. Ciao.
Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.